1er mai 1991. Sterlington, États-Unis. Industrie chimique. Une explosion dans une usine de nitroparaffine tue 8 ouvriers et blesse 120 personnes. De nombreux dégâts seront à déplorer dans les alentours de l'usine.
3 mai 1991. Cordoba, Mexique. Industrie chimique. L'explosion d'une usine de pesticides se produit au milieu d'une ville de plus de 300 000 habitants. 38 000 litres de pesticides sont répandus dans l'atmosphère. 16 ans plus tard, on dénombre entre 1 500 et 5 000 victimes intoxiquées.
3 septembre 1991, Hamlet, États-Unis, industrie agroalimentaire. Une panne dans le circuit hydraulique provoque un incendie dans une usine de conditionnement de poulets. Les portes coupent feu, emprisonnent les ouvriers, causant 25 morts et 55 blessés.
9 novembre 1992. Lamed, France. Industrie pétrolière. Un nuage gazeux d'hydrocarbures s'échappe d'une brèche dans une raffinerie totale, provoquant un incendie suivi d'une explosion et tuant 6 des 8 membres de l'équipe.
3 décembre 1992, baie de Corogne, Espagne, industrie pétrolière. Le pétrolier Egansi fait naufrage en baie de Corogne et perd la totalité de ses 80 000 tonnes de pétrole brut.
Allez, retour à la chapelle, et c'est le retour du jeu des 1000 heureux. Deuxième session. Alors attention, là, on parle industrie et guerre, et même un peu nucléaire, parce que vous êtes gentils. Alors donc, écoutez, le principe, c'est que vous ne gagnez rien, mais vous gagnez quand même le plaisir de participer. Alors, vous êtes chaud? Première question. Est-ce qu'au xylophone, on a changé d'intermittent du spectacle au xylophone, mais on a toujours un. Attention, première question. La date du premier moulin, la construction du premier moulin à poudre à Toulouse. Donc en fait, le début de l'industrie de l'armement, en quelque sorte, à Toulouse. Alors c'est un peu le juste prix, hein, proposer des dates.
Alors on a une proposition
1430.
Ah, c'est un peu après quand même. Mais effectivement, c'est vieux. Hein.
1750.
Ah non, c'est avant. Ouh là là, là, c'est bien trop tard. Premier moulin à poudre, donc, à Toulouse.
1552.
Combien ?
1552.
Oh, c'est pas loin, allez, on va dire que c'est bon. Mais c'était sous François 1er, donc 1515 derrière, on n'était pas loin non plus.
Mais pas du tout.
C'est en 1536, voilà, que François 1er a concédé au Capitoul, donc les maires un peu de l'époque, on va dire les autorités de l'époque de la ville de Toulouse, l'autorisation de créer le premier moulin à poudre de Toulouse, qui était situé sur l'île de Tunis. Voilà, moulin qui a fonctionné pendant plus de 100 ans sous l'autorité des Capitouls, puis après qui est passé sous l'autorité du roi, hein, qui s'est attribué la fabrication des poudres et des salpêtres pour tout le royaume. Voilà.
Deuxième question.
Voilà, on peut dire que voilà, c'est les débuts de l'industrie de guerre qui a fait son nid à Toulouse au fur et à mesure, au fil des siècles. Allez, deuxième question. Du coup, on a parlé de la première, on va dire, pas de la première usine, mais du premier moulin. Donc maintenant, date de la première explosion d'origine accidentelle. Explosion, donc on va dire le premier accident industriel, la première explosion industrielle à Toulouse. Quelle est la date de la première explosion d'origine industrielle à Toulouse ?
1789.
J'entends 1789, non.
1850 ?
1850, non, c'est avant.
1666.
Combien tu dis ? 1666, c'est pas loin. Un peu plus.
1686.
Non, c'était 1684. Voilà. Donc, à peu près 150 ans après l'ouverture du premier moulin à poudre, arrive la première explosion, le début d'une longue série. Série peut-être en cours, en tout cas qui pour le moment a pris fin en 2001. On a une petite vignette là-dessus. Il faut savoir juste avant la vignette que le moulin à poudre a connu 8 explosions jusqu'en 1840. Du coup, il n'en reste plus rien.
1684. Le premier moulin à poudre de Toulouse, implanté au niveau de l'ancienne écluse accolée à l'actuel pont Saint-Michel. En 1684, le moulin à poudre ayant fait explosion, tous les vitraux de leur église furent brisés et la toiture fortement ébranlée. 600 livres de dégâts, 40 livres de compensation accordées par les Capitouls.
Retour au jeu. Alors, attention, attention, c'est toujours le jeu des 1000 euros, vous êtes toujours à la chapelle, c'est toujours la grande journée de cette semaine quand votre ville fait boum. Alors, question, à quoi a servi le gaz phosgène pendant la guerre de 14-18? Ou si vous préférez, sous quel autre nom connaissait-on le gaz phosgène pendant la guerre de 1914 à 1918?
Le gaz au poivre.
Le gaz moutarde.
Le gaz moutarde, voilà, on a des réponses. C'était le gaz moutarde. Alors, deuxième question sur le gaz moutarde, sur le phosgène, quelle était la particularité de ce gaz? Non, il ne faisait pas rire.
Il était rose.
Il ne faisait pas pleurer, il n'était pas rose.
Quand il y a du phosgène, il n'y a pas de plaisir.
Il n'était pas rose du tout.
Il tue?
Ah oui, il tue, ça c'est sûr, il tue, ouais. Non, mais c'était les propriétés physiques, un petit peu. Donc il n'est pas rose. Hein. Il était incolore, par exemple. On ne le voit pas, effectivement, incolore, inodore. Il était plus lourd que l'air aussi, ce qui fait qu'il stagnait, notamment dans les trous d'obus où pouvaient se réfugier les soldats. Et surtout, surtout, il n'agissait qu'après plusieurs heures. Donc il pouvait donc occasionner de nombreuses pertes et eut également un impact psychologique important puisque les soldats n'étaient jamais sûrs de s'être protégés à temps. Le phosgène. Mais alors attention, où produisait-on ce gaz à Toulouse? Le phosgène ou gaz moutarde?
Au Capitole.
Non, ce n'était pas au Capitole.
À la SMPE?
Oui, c'était à la SMPE, jusqu'en 2001. C'est pour ça d'ailleurs que au moment de l'explosion, on a eu très peur. Pour info, il faut savoir qu'à Bhopal, c'est un dérivé du phosgène qui s'est échappé. Bon, isocyanate de méthyle, ça c'est vraiment pour les chimistes. Mais c'était un dérivé du phosgène et à ce moment-là, il y avait eu entre 20 et 25 000 morts et des centaines de milliers de blessés et de malades. Donc on imagine si la conduite de phosgène avait pété à la SNPE suite à l'explosion de la ZF, ce que ça aurait pu donner.
La SNPE, Société Nationale des Poudres Explosifs,
voilà.
Qui se situe pas très loin d'un palo et très près du Mirail.
Et tout près du périphérique, hein. Donc vous y passez, on saisit. Voilà. Quel est le point commun, tiens, puisqu'on est, on est là-dessus, quel est le point commun entre les missiles Made in France, la fusée Ariane et la ville de Toulouse?
C'est en France.
La ville de Toulouse, oui, c'est en France, c'est ici. C'est là où on est, finalement, si on y réfléchit. Quel est le point commun entre les missiles Made in France, la fusée Ariane et la ville de Toulouse? C'est un peu dans la... on est toujours dans la suite.
La SNPE.
Airbus, SNPE, ouais, Airbus non. Toulouse n'est pas fabriqué à Toulouse, mais les missiles non plus, la fusée Ariane non plus.
Le carburant,
tout à fait, c'est le propergol, le carburant produit à la SNPE, qu'on appelle aujourd'hui Héraclès. Hein. Et alors ce carburant sert à la fusée Ariane, on est très fiers, mais en fait ça c'est accessoire, l'essentiel de la production sert pour les missiles français. Voilà, le propergol. Allez, tiens, on a une question pas mal là. Pourquoi les États-Unis, pourquoi l'armée américaine a bombardé la riante bourgade de Royan en 1945?
Pour essayer une
napalm. Bravo. Ouais, oui. Exactement. Très forte. T'as potassé avant de venir, j'ai laissé traîner la feuille, c'est pour ça. C'était pour tester les bombes au napalm au cours des raids sur Royan les 14 et 15 avril 1945. C'est la première expérimentation massive du napalm. Durant la seule journée du 15 avril, les bombardiers B-17 de l'armée américaine ont déversé 725 000 litres de napalm sur la ville. Je sais pas à quoi ça ressemble au Royan aujourd'hui, mais ça doit être sympa. Ça ressemble à rien, ok.
C'est que des nouvelles constructions.
Bon, combien de temps il nous reste? Est-ce qu'on passe au nucléaire? Vous avez envie de quelques questions sur le nucléaire? C'est vrai que le nucléaire, tout de suite, ça va être bien. Alors, nucléaire. Tiens, combien coûterait un accident nucléaire majeur en France? C'est un rapport de l'IRSN qui l'a dit en 2014. Combien coûterait un accident nucléaire majeur en France? Vous proposez les prix. Hein.
3 millions de morts.
Oui, c'est possible. Mais en l'occurrence, c'est pas la question. C'est plutôt une question là. On est sur le passement matériel, les coûts en euros.
50 milliards d'euros.
50 milliards d'euros, on en est très loin.
200 milliards d'euros.
Non, c'est bien plus. Bien plus. Combien coûterait un accident nucléaire majeur en France?
C'est la loi de prix,
l'IRSN. On pourrait le dire, mais en fait, ils ont quand même réussi. Alors, le chiffre est totalement absurde, mais ils en ont sorti un. Mais effectivement, il est assez absurde.
Des centaines de milliers de sandwichs sur pâté.
Des centaines, non.
1000 milliards
1 000 milliards de mille sabords.
Bon, allez, je vous donne la réponse. C'était 5 800 milliards d'euros. Voilà, selon ce rapport de 2014 de l'IRSN. Un accident majeur nucléaire coûterait 5 800 milliards à la France. Donc c'est rassurant, maintenant noté sur la fiche, c'est rassurant parce qu'à ce prix-là, on s'en paiera jamais un. Espérons. C'est 3 fois le PIB. Voilà. Alors, ben, tiens, comment et où la France est passée en 1999, tout près d'un accident nucléaire majeur, justement? C'est une question, attention, xylophone. Où et comment la France est-elle passée en 1999, tout près d'un accident nucléaire majeur?
Golfech,
ça n'est pas Golfech. Ah oui, c'est la tempête de 99. Ouais, c'est la centrale nucléaire du Blayais, c'était le 27 décembre 1999, donc c'est à côté de Bordeaux. C'est dans l'estuaire de la Gironde, très précisément. Tout comme Royan. Décidément, faut pas habiter là-bas. Suite à la tempête Martin qui touche l'ouest de la France à l'automne 99, les vagues venues de l'océan ont franchi la digue qui était censée protéger la centrale, mais qui visiblement était un peu insuffisante. Et c'est 90 millions de litres de flotte qui ont envahi le site. On est alors passé tout près d'une fusion du cœur de la centrale. Voilà, 99, vous vous en souvenez? Je ne sais pas ce que vous disiez à ce moment-là, mais vous vous en rappelleriez si, si la fusion avait eu lieu. Le grand public découvre alors avec stupeur que la centrale est en zone inondable, tout comme 15 autres réacteurs français. Voilà. Les autorités ont classé l'incident au niveau 2 sur une échelle de 7, mais le réseau Sortir du Nucléaire avait dénoncé alors un Tchernobyl raté. Aujourd'hui, on penserait plutôt à Fukushima. Alors tiens, qu'est-ce qui s'est passé les 17 octobre 1969, 13 mars 1980 ou encore il y a un an à peine, le 23 septembre 2015? Que s'est-il passé le 17 octobre 69, le 13 mars 1980, le 23 septembre 2015? Alors que visiblement le xylophone est en panne. Problème avec ces machines compliquées. Vous n'avez pas une idée? C'est facile, pourtant c'est en lien direct avec ce dont on vient de parler. Ce n'est pas une tempête, ce n'est pas un tsunami. Non, c'est tout simple. Hein.
Il y a eu un problème.
Il y a eu un problème, oui. Houston, we have a problem.
Un problème industriel.
Il y a eu un problème industriel, de quelle nature?
Une explosion chimique.
Non, ce n'est pas chimique.
Biologique.
Ce n'est pas biologique.
Nucléaire.
C'est nucléaire. Voilà. C'est des incidents nucléaires sur le sol français. En 69, en 80 et en 2015, respectivement dans les centrales de Saint-Laurent-des-Eaux pour les deux premiers et de Brénilis pour le dernier. Voilà. Donc ça arrive. C'est pas encore majeur, mais enfin c'est là, ça nous guette. Allez, une dernière question, on revient à Toulouse. Bon, celle-là, elle est compliquée. Allez, je vous la pose quand même. Quel prix Nobel a rendu possible l'invention du cyclone B? C'est pas Toulouse, en fait.
Le prix Nobel de littérature.
Ce n'est pas le prix Nobel de littérature, ça doit être un prix Nobel de chimie, j'ose imaginer. C'est le nom de ce prix Nobel que nous voulons. Ce n'est pas Obama. C'était avant, l'invention du cyclone B. C'est très compliqué, mais on a peut-être... Tiens, tu veux ce...
Fritz Haber.
Exactement, bravo. C'est Fritz Haber, chimiste allemand, prix Nobel de chimie en 1918 pour ses travaux sur la synthèse de l'ammoniac. Voilà, ammoniac qu'on retrouve dans la fabrication des engrais et des explosifs. Tiens, bah ça tombe bien, parce que ça va être le débat de maintenant, enfin troisième plateau de la journée sur...
Nous allons aborder la question de l'industrie et la guerre, l'armement autour de l'ouvrage Toulouse Nécropole, mais d'abord on écoute un petit son.
Chronique d'une agonie résignée.
Tu me feras sans lire. À la masse, les heures sup, c'est au volontariat. Tout le monde te le dit, c'est pas une obligation. Ce que tout le monde te dit aussi, c'est qu'au bout d'un temps, si tu les refuses systématiquement, tu finis à la porte. Mathilde est intérimaire. On a été formés ensemble. Elle, les week-ends, elle aime les passer ailleurs qu'au boulot. Et en ce moment, des heures supplémentaires, elle n'en a pas besoin. Son mec aussi est à l'usine, à la fonderie. Son père aussi, d'ailleurs. Ils se sont arrangés pour être dans la même équipe. Ça lui permet de profiter des temps libres avec son copain. Et puis, ça fait moins d'essence pour tout le monde. Seulement, les week-ends de Mathilde, ils intéressent le chef d'équipe et il rage de ses réponses chaque vendredi. Il a tout essayé. La complicité, les menaces. Alors aujourd'hui, il met à exécution. C'est pas compliqué. On a des contrats renouvelables d'une semaine. Alors il attrape Mathilde et lui dit que la semaine à venir, c'est pas la peine qu'elle vienne. Que ça la fera réfléchir. En conséquence, à son retour, elle change d'équipe. Plus de voiture commune avec le reste de la famille, plus de pause déjeuner avec son amoureux et surtout, plus du tout les mêmes horaires. Maintenant, Mathilde commence à 5h et sort à 13h. Juste le temps de se croiser et quand il rentrera après 21h, elle sera sûrement couchée. En plus des frais supplémentaires que ça lui impose, Mathilde aura perdu une semaine de salaire sur le mois. Au coin, les mauvaises ouvrières.
6 juillet 1988. Mer du Nord, Écosse, industrie pétrolière. Une fuite de gaz suivie d'une explosion sur la plateforme pétrolière Piper Alpha fait 167 morts.
24 mars 1989. Alaska, États-Unis, industrie pétrolière. Le naufrage du pétrolier Exxon Valdez répand 40 000 tonnes de pétrole brut sur 1 700 km de côte.
4 juin 1989, Oufa, Russie, industrie gazière. Un nuage de gaz naturel échappé d'une canalisation explose au passage de deux trains et tue 575 personnes. 800 autres sont blessés.
23 octobre 1989. Pasadena, États-Unis, industrie chimique. L'explosion suivie de l'incendie d'une usine chimique tue 23 personnes et en blesse gravement 314 autres.
5 juillet 1990, Channel View, États-Unis, industrie chimique. Une explosion suivie d'un incendie dans l'usine chimique tue 17 personnes.
On estime à environ 550 millions le nombre d'armes à feu actuellement en circulation. Autrement dit, il y a un homme sur 12 qui est armé sur cette planète. La seule question, c'est... comment armer les 11 autres ?
Voilà, il est 13h39 et des secondes, on est toujours en direct de la chapelle.
Voilà. Toujours en direct de la chapelle sur Canal Sud en direct. On continue de réfléchir aux diverses implications de l'industrie et la table ronde qui suit est autour du petit opuscule, enfin moyennement petit opuscule, Toulouse Nécropole qui était arrivé dans les bacs en décembre 2014. Toulouse Nécropole sous-titré spécialité au pluriel, spécialité locale pour désastre global, la production d'armement dans la région toulousaine. Et pour discuter de ça, on est avec Claude. Bonjour Claude. Et avec Eric. Eric, tu es avec nous, Eric ? Bonjour, Eric. Ah, là, je m'entends. Peut-être, Eric, tu nous avais préparé un texte ? Oui ?
Oui, j'y vais comme ça, d'accord. Eh ben, écoute, je me lance comme ça, ok, je me lance aussi. Oui, je profite là de notre invité autour de la table pour continuer avec ces petits jeux de 1000 euros là, qu'on a fait tout à l'heure. Pour vous poser vous la question, quel est le point commun entre l'armée et Total à Toulouse ?
Entre l'État
et Total, l'armée et Total, l'État et Total. C'est qu'en fait, tous les deux ont balancé leurs ordures sous le tapis avant de partir de Toulouse. Je peux développer là-dessus. Le premier, par exemple, pour prendre l'armée. Pendant 3 siècles, toutes sortes de poudres et explosifs ont été bricolés à partir de notre belle ville. Mais ça, si vous écoutez Canal Sud depuis une semaine, vous devez commencer à le savoir par cœur. Donc cette industrie, aussi guerrière que mortifère, a atteint son apogée en 14-18. Avec une production de 320 000 tonnes de nitrocellulose, dite aussi poudre B. Cette nitrocellulose se présente sous la forme de bandelettes solides et assez souples. Elle était utilisée pour la propulsion des obus et classée dans la catégorie risque danger d'incendie dans le règlement international de transport de matières dangereuses de l'ONU. Cette poudre...
C'est une longue question.
Ouais, c'est une longue question, c'est une longue réponse, tu vas voir. Cette poudre, donc, dont la combustion est aussi rapide qu'incontrôlable, ne peut absolument pas être entreposée à l'air libre. En fait, elle est trop instable. Et donc, pour garantir sa stabilité, il faut l'enfermer dans des caisses en bois et en zinc et l'immerger dans l'eau. C'est donc cette brillante solution qu'a retenue l'armée à la fin de la Première Guerre mondiale, ce qu'on appelait la Grande Guerre. Et donc la voilà en train d'immerger dans les années 20, sous 3 mètres de flotte, des tonnes de nitrocellulose, et ce en reconvertissant un site de 37 hectares où sommeillent 4 anciennes gravières Et donc elle est reconvertie en lac artificiel et elle noie la nitrocellulose. Ces quatre gravières que l'armée va rebaptiser des ballastières et qui ont une capacité de stockage de 50 000 à 100 000 tonnes. C'est une belle aubaine pour elle parce que ces ballastières, en fait, elles existent toujours. Elles sont toujours à côté de la Garonne. Elles sont en fait juste en dessous du parking de l'Oncopole aujourd'hui, en dessous également de la SNPE. Grosso modo, si vous connaissez l'ancien Bikini, ben, c'est juste en face, sauf que c'est planqué derrière des grands arbres, derrière une végétation abondante. Mais elles sont toujours là. Donc au début des années 70, la poudrerie qui a donc fabriqué poudre B, nitrate fuel et autres, est sur le point de fermer ses portes. Et donc l'armée décide, dans un grand mélange de générosité, de dépolluer tout le site, dont les ballastières. Donc en 72, des plongeurs vont faire la trempette dans ces gravières. Et surprise, ils s'aperçoivent que les caisses en bois et en zinc se sont décomposées avec le temps et que la nitrocellulose s'est répandue partout au fond des étangs. Entre 72 et 75, une entreprise de travaux sous-marins est mandatée pour faire le ménage. Alors elle ne va pas y aller de main morte. Elle ne trouve rien de mieux à faire que de remonter quelques tonnes de bandelettes à la surface, de les faire sécher et de les brûler, quoi, ce qui dégage une fumée d'oxyde d'azote épouvantable. Et elle fait ça, évidemment, sans penser aux poumons du voisinage, puisqu'il y a quand même pas mal de voisins dans le coin. En 75, la boîte fait faillite et arrête brutalement son chantier. Le temps passe et les solutions ne se bousculent pas. Heureusement qu'il y a un préfet de l'époque, là, dans les années 80, qui a une idée lumineuse. Vu que les ballastières sont entourées, ce que je disais là, d'une épaisse végétation, eh bien, il prend en 1981 un arrêté biotope, c'est-à-dire que il décrète officiellement l'intérêt environnemental et écologique des ballastières. Un bon comique, ce préfet. 3 ans plus tard, le ministère de la Défense réussit la prouesse de revendre ces 4 étangs, qui sentent la poudre, à Total. Le temps passe. En mars 2000, le préfet, un autre, s'inquiète un peu de cette eau qui dort et veut savoir quelle quantité de poudre est réellement planquée dans ces ballastières. Donc des plongeurs du service des minages de Montpellier, des pros, hein, vont aller faire un tour dedans, ils en ressortent, ils sont blêmes. D'après eux, il y a 46 000 tonnes de poudre en bandelettes qui dorment là-dedans. En plus, ils vont procéder à des détections magnétométriques qui vont révéler un grand nombre de masses métalliques, dans au moins 2 ballastières. Ce qui voudrait dire que ces appareils de mesure ont repéré des obus gisant à côté de la poudre. Et ces obus, vu qu'ils datent de la Première Guerre mondiale, à une époque où un de ces engins de mort sur 3 était chimique, bien souvent rempli de gaz moutarde. Le préfet panique un peu et le 10 août 2000, il prend un arrêté pour obliger Grande Paroisse à effectuer une étude de faisabilité pour neutraliser ces produits, pour dépolluer. Mais bon, la filiale de Total ne veut rien savoir et surtout rien dépolluer. À la limite, elle veut bien poser une clôture avec un grillage, mais sans plus. En revanche, elle engage illico presto une procédure judiciaire pour que l'État récupère les 4 étangs artificiels qu'il lui avait revendus. En 2001, l'explosion de la ZDF, le site est sanctuarisé, c'est-à-dire qu'on renforce la clôture, qu'on ne touche à rien, qu'on n'en parle plus. 3 ans plus tard, l'armée se retrouve à nouveau propriétaire du site, un retour à l'envoyeur. Pour conforter l'étude faite en 2000 par les plongeurs des mineurs de Montpellier, donc qui avaient trouvé 46 000 tonnes, la grande muette mandate cette fois-ci le génie de Montauban pour refaire des calculs. Et revoilà des biffins qui piquent une tête dans l'eau pour aller compter la quantité de poudre. Et là, miracle, ils trouvent pas 46 000 tonnes, eux, ils en trouvent 5 400 tonnes de poudre B dans les 4 anciennes gravières. En gros, en 4 ans, 40 000 tonnes de nitrocellulose sont évaporées. C'est plus un miracle, c'est de la magie. Comme ça fait un peu tâche, du coup, l'armée veut faire un troisième plan de prospection pour trancher. Heureusement, elle est sauvée par le gong, c'est-à-dire que l'imprévisible maire de Toulouse, Douste Blasi, le maire de l'époque, annonce le jour même où il est nommé ministre de la Santé, d'ailleurs, en mars 2004, qu'un grand centre européen de lutte contre le cancer va voir le jour sur l'ancien site de la ZDF, à moins de 200 mètres de la première ballastière. En 2007, l'armée finit quand même, enfin, par lancer sa 3e étude. Les résultats tombent. Il ne reste plus que 4700 tonnes de nitrocellulose, de mieux en mieux. Donc pourquoi en fait faire fondre, je te demande, pourquoi faire fondre les chiffres comme ça, en plus de manière aussi grossière, genre on vous prend tous pour des cons et des connes. C'est parce qu'en fait l'armée n'a aucune marge de manœuvre. Si elle brûle la poudre sur place, comme dans les années 70, le procédé dégage des gaz bourrés d'oxyde d'azote, bien toxiques pour les riverains. Si elle expédie le tout vers un centre de retraitement spécialisé, il y en a un qui est en Dordogne, là aussi c'est impossible, à moins de vouloir faire un remake du film Le Salaire de la Peur, parce que le transport par la route de nitrocellulose est rigoureusement interdit, les camions se transformeraient en torches à la première secousse. C'est-à-dire que si ces bandelettes se mettent à se protéger les unes aux autres, ça fait des étincelles et ça prend feu. C'est charmant. Donc la seule solution, c'est, enfin la dernière, c'était retraiter sur place. Ben, ça aussi, c'est super. Hein. Ça reviendrait à balancer 5 millions d'euros dans la construction d'un site, d'une installation classée Céveso 2, juste sous les fenêtres de la clinique du cancer avec ses 312 lits. Ça peut faire un peu tâche. Donc voilà, vu que ben, ces balastières sont là depuis 100 ans, mais que l'État joue toujours aujourd'hui la montre, dans un siècle, on peut dire qu'elles seront toujours là. Surtout qu'à ce jour, ce site tout moisi est officiellement devenu un site Natura 2000, c'est-à-dire une zone naturelle classée qui œuvre à la préservation des oiseaux, de la faune et de la flore. Je peux continuer.
Mais c'est déjà pas mal, peut-être. On va... Merci, Eric. Donc, c'est un point très détaillé sur les balastières qui sont peut-être un des avatars de rapport entre la ville et de Toulouse et l'industrie militaire. Dans l'ouvrage dont on parlait tout à l'heure, Toulouse Nécropole, que vous pouvez venir vous procurer. Si vous nous rejoignez au 36 rue Daniel Casanova, il est question de bien d'autres choses. Je sais pas, peut-être une première question. Toi Claude, comment tu raconterais les débuts de l'imbrication entre la ville de Toulouse et cette industrie militaire dont Eric nous racontait quelques trucs qui sont toujours sous le tapis? Comment est-ce que ça commence l'implantation de cette industrie-là ici?
Bon, d'abord, je voudrais me présenter un peu plus, si c'est possible. Moi, je suis un habitant de Toulouse depuis que je suis petit. Et en gros, j'ai grandi avec les usines d'armement autour de chez moi. Je suis un... je me positionne en tant qu'homme blanc, dominant, ayant des rapports de classe, de race et de sexe, et je les reproduis. C'est-à-dire qu'en fait, je me retrouve, en sortant du bahut, comme un bon petit militariste ou un bon petit... futur producteur dans des usines d'armement toulousaines. Donc ça, c'est quand même un constat de départ, c'est-à-dire que je pense qu'au sein de la ville qui produit les armes, il y a les gens, et les gens sont en permanence dans des contradictions de vie qui font que pour croûter ou pour comme ça, ils reproduisent des saloperies. Voilà. Et j'en fais partie. Donc l'histoire toulousaine... comment on en est arrivé là, en gros, aujourd'hui, comment il y a eu l'explosion de la ZDF et comment aujourd'hui on est la troisième ville producteur d'armes. C'est un truc qui remonte, en gros, il y a 200-300 ans. Toulouse donc, s'est construit sur le gué de la Garonne et très rapidement, on a installé des moulins avec les premiers titre au porteur payable en farine, c'est-à-dire dès le Moyen-Âge, en gros, Toulouse est précurseur du système capitaliste aujourd'hui. Puis ensuite, avec la royauté, donc Louis XIV institue les moulins à poudre, donc on passe de moulins à farine à moulins à poudre sur l'ensemble du royaume, et Toulouse va céder très rapidement, la ville de Toulouse, au niveau du château Narbonnais, va céder, c'est-à-dire l'ancien palais de justice, le palais de justice aujourd'hui, va céder des hectares pour construire une usine de poudre. Et cette usine va exploser une première fois, etc. Et la ville et le ministère des Armées, puisque la fabrication des poudres est sous monopole du ministère des Armées, va petit à petit s'éloigner du centre-ville et aller vers la banlieue, sur l'île du Ramier. La Révolution va instituer l'arsenal, puis il va y avoir la très grosse poudrerie napoléonienne qui va voir le jour sur l'île de Ramier.
À cette époque-là, les gens qui travaillent dans les poudreries, c'est des gens qui sont de l'agglomération de la ville de Toulouse, ou on construit des baraquements autour?
Non, c'est encore une petite production. Jusqu'en 14, c'est quand même, ça reste une petite production, et je pense que ce sont des gens qui sont des locaux, quoi. Donc Toulouse, pourquoi Toulouse? Il y a les raisons géographiques, c'est-à-dire que c'est placé loin des fronts de l'Est. loin des fronts avec l'Allemagne ou des fronts avec la Russie. L'Angleterre est derrière une mer. Et l'Espagne, puisqu'il y a déjà la première guerre en 1770, l'Espagne, donc, derrière les Pyrénées. Donc Toulouse va devenir une base arrière, à la fois pour la guerre contre l'Espagne et à la fois une base arrière pour la capitale qui risque d'avoir une invasion.
Il y a le charbon aussi, des mines de carbone.
Ensuite, il y a beaucoup d'énergie. Donc on se retrouve avec l'hydraulique des Pyrénées et le charbon des mines de carbone qui va permettre donc d'avoir l'énergie pour fabriquer toute cette chimie. Donc on se retrouve avec à l'entrée de la guerre de 14 avec une industrie qui est en développement, mais qui va vraiment prendre son envol avec la guerre de 14. Et là, c'est une industrie qui est la plus importante dans la ville. C'est-à-dire on retrouve, j'ai cité quelques chiffres là, c'est 30 000 personnes qui bossent sur la poudrerie. La cartoucherie qui a été créée entre-temps, il y a 50 000 personnes qui y bossent. Sur l'arsenal, fabrication des armes directement, il y a 16 000 personnes qui bossent. Donc c'est une très très grosse industrie toulousaine, quoi.
Alors, pour l'instant, tu parles de la chimie, mais tu disais tout à l'heure, c'est une industrie qui prend son envol, c'est le cas de le dire, parce que parallèlement à ça, il va y avoir un deuxième pilier, voilà, de Toulouse comme ville d'armement, qui est non pas l'avion utilisé pour l'aéropostale, comme c'est dans les livres pour enfants.
Toujours une cause géographique, c'est-à-dire qu'en fait, le pays est relativement ensoleillé, avec pas trop de vent, etc. Donc il va y avoir les premiers aviateurs qui vont choisir Toulouse comme base pour commencer à faire les essais, donc Mermoz, etc., tous les premiers aviateurs qui vont... Et ensuite, dès 14, alors là, c'est la TECOR, et ensuite de Wonit, qui s'appelle, qui vont commencer à faire donc les premiers avions de guerre qui vont servir. Les premiers servent pour repérer, faire des photos, etc., tout ce style de trucs. Et ensuite, on passe aux chasseurs bombardiers, etc. Et à la fin de 14, il y a à peu près 400 avions bombardiers qui sont construits déjà ici.
Donc là, les boîtes que tu cites, hein, la TECOR, c'est des entreprises privées qui vendent à l'État sous contrat. Pour l'instant, on est encore dans cette phase du capitalisme.
Ouais, c'est encore du privé. Il n'y a pas eu la nationalisation des usines d'armement qui s'est faite après, quoi.
Voilà, on pose des jalons parce qu'au fur et à mesure qu'on va raconter ce siècle de Toulouse comme ville d'armement, c'est aussi dans cette direction-là que ça va changer, c'est-à-dire une intégration totale de ces, sans mauvais jeu de mots, de ces usines-là, de ces productions-là, pour devenir quelque chose qui a complètement changé de nature 90 ans plus tard.
Alors ce qui est flagrant, c'est que la fabrication d'armes va de pair avec l'évolution du système capitaliste. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec une population qui va travailler, qui va être bon principalement, donc les hommes étant au front, ça va être des femmes ou des immigrés ou des ex-chômeurs et tout ça, et on va leur appliquer les méthodes du taylorisme pour les mettre à la chaîne, etc. Donc, et 14, donc la guerre se termine. La guerre se termine et donc les industries là vont en fait reprendre de plus belle parce que en fait une fois la guerre terminée, il s'agit de préparer la nouvelle guerre. Alors comment ils vont faire pour préparer la nouvelle guerre? Là, je vais faire une parenthèse sur comment étaient fabriqués les explosifs à l'époque. Normalement, c'est à partir de l'ammoniac et à partir de l'acide nitrique qui est un dérivé de l'ammoniac. Seulement, cet ammoniac a été fabriqué de manière entre guillemets naturelle avec de l'azote et de l'hydrogène. L'hydrogène,
d'où le nom de l'usine AZF. Hein.
Azote fertilisant. Donc, l'hydrogène, lui, était tiré du coq ou du gaz ou de l'eau. Et l'azote, lui, était tiré de l'air. Avant d'être tiré de l'air, il était tiré du guano des pigeons, etc. Et entre autres, un guano qui était très, très particulièrement chargé en azote qui se trouvait en Amérique du Sud. Donc il y avait des bateaux qui amenaient ce guano.
Le guano, c'est quoi? C'est la fiente?
Le guano, c'est la fiente. Ouais.
Ah,
le guano, donc, du Pérou, du Chili. Et ces bateaux donc, arrivaient sur le sol européen et il y avait une transformation chimique qui se faisait. On récupérait l'azote de la fiente, on récupérait l'hydrogène et on arrivait à faire l'ammoniac, l'acide nitrique et tout ça. Tout ça se faisait de manière, entre guillemets, naturelle avant la synthèse. Or, les Allemands, avant 14, découvrent la synthèse. C'est le procédé Haber. Découvrent la synthèse synthèse de l'ammoniac. C'est-à-dire qu'en gros, ils n'ont plus besoin du guano pour faire de l'azote. Donc, ils ne craignent plus
la pénurie,
et entre autres les barrages maritimes des Alliés. Ils peuvent se lancer dans la guerre. Et un petit point sur l'agriculture, il faut voir que l'agriculture industrielle, une des premières, c'est une arme, quoi. C'est-à-dire que quand on lance l'agriculture industrielle à partir des engrais de synthèse, on sait qu'on va avoir en fait de quoi nourrir le front, nourrir la population et nourrir le front et partir sur une longue guerre. Donc les Allemands sont tranquilles. Ils perdent la guerre de 14 quand même, et l'armistice est signé, et les Français récupèrent les brevets pour fabriquer l'ammoniac synthétique et l'acide nitrique synthétique qui va servir principalement au début à fabriquer des explosifs. Et donc ils récupèrent les usines, entre autres l'usine d'Oppo en Allemagne, et ils la transfèrent en 1924 à Toulouse, où ils construisent donc l'ONIA, Office National des Industries de l'Azote. Des industries de l'azote, oui.
Ouais, je propose de lire un extrait de Toulouse Nécropole pour repartir sur un des points que tu viens d'aborder là. L'économie de la région Midi-Pyrénées est duale, basée sur une production industrielle dite civile et sur la fabrication d'armements. Ces deux secteurs se nourrissent, s'entretiennent et fonctionnent imbriqués l'un dans l'autre. Le complexe militaro-industriel local est particulièrement actif et rentable. Il dynamise la recherche et l'industrie, génère des grands travaux et des opérations financières spéculatives. Comme partout en France, pays où la productivité est au top, la folie expansionniste prend ici aussi des allures obsessionnelles. Toulouse et les villes périphériques comme Colomiers, Blagnac ou Ramonville ont aujourd'hui la même dynamique économique guerrière.
Les trottoirs, les lampadaires, la ville tout entière devient intelligente. Ces messieurs les bienfaiteurs municipaux se targuent de détecter les crottes de chiens à l'aide du tout dernier satellite d'Astrium et de les désintégrer grâce au savoir-faire de Thalès et de Safran. Ici, les mémés aiment la castagne alors que les rugbymen du stade, eux, sponsorisés par EADS, Airbus, se métamorphosent en hamsters de laboratoire, bourrés de testostérone et bardés de capteurs de toutes sortes pour espionner leur rentabilité sportive. Ce sont les mêmes technologies qui équipent les soldats dits du futur. Et de fait, quels que soient les prétextes utilisés, les raisons invoquées, hygiénistes, sanitaires, progressistes, ludiques ou sécuritaires, c'est bien de la mise sous surveillance et de la contrainte électronique généralisée dont il s'agit, de la police des populations. Ici aussi, le capitalisme est à l'œuvre et le social-libéralisme aux commandes démocratiques. Les politiciens et les technocrates locaux organisent régulièrement toutes sortes de concertations citoyennes symboliques pour faire croire que les prises de décision sont collectives, que la vie des gens est importante, qu'il sera pris en compte.
Que la vie des gens soit prise en compte, oui, on peut toujours rêver. Claude, tu parlais tout à l'heure, tu racontais cette période de 1914-1918, on est en 1918, les usines sont là, il y a un savoir-faire, une production, et il n'y a plus de conflit. Là, il y a un mot sur lequel j'aimerais que tu reviennes, c'est la question de la dualité.
Oui, alors ces usines sont capables de fabriquer à la fois des engrais et à la fois des explosifs. Il n'y a plus de conflits, mais les conflits existent toujours, c'est-à-dire qu'ils n'existent plus sur le front européen, mais il y a des conflits à droite et à gauche, en Afrique, en Asie, etc. Et les usines d'armement vont continuer à produire de l'armement pour ces conflits-là et pour alimenter les armées aujourd'hui, enfin les armées de l'époque. Bon. Et en même temps, il faut lancer cette agriculture industrielle qui va nécessiter de l'engrais industriel. Donc AZF se met à fabriquer en très grosse quantité de l'ammonitrate. Ammonitrate, donc, qui est l'engrais à base d'ammoniac. Donc en fait, c'est une usine duale. Ça veut dire qu'elle peut à la fois le même produit peut participer d'une activité civile ou d'une activité militaire. Donc en fait, on va retrouver ce système-là tout au long de la guerre et de l'armement et en fait de l'industrie ou de la technologie de manière générale. On peut remonter très 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 loin parce que les gens qui disent la guerre a toujours existé, ils disent les armes ont toujours existé. Alors effectivement, au néolithique, puisqu'on n'a pas de traces de batailles rangées avant le néolithique, les gens avaient déjà des casse-noix, effectivement, des massues, tout ceci, le truc. Alors le passage entre d'un outil qui était un outil de chasse à un outil qui sert à une arme d'agression, là, il est vraiment très, 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 très limité, quoi. Donc on se retrouve dans la dualité dans l'armement qui existe dès le début en fait, où l'homme commence à utiliser les outils, quoi. Et ensuite, donc, ça prend des proportions aujourd'hui qui sont beaucoup plus grandes, parce qu'on se retrouve avec un mélange des genres qui est complètement indissoluble, quoi. C'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas si on fabrique aujourd'hui, si on est producteur dans une boîte toulousaine, on ne sait pas si on fabrique de l'armement ou si on fabrique des civils, quoi.
Alors, pour illustrer ce que tu dis, j'avais envie de lire un des extraits, hein, donc de Toulouse Nécropole, spécialité locale pour désastre global. C'est un ouvrage en gros qui se compose en deux parties. Il y a une bonne moitié qui est un texte de réflexion sur toutes les choses dont nous sommes en train de parler, et une partie sans doute un peu aride à la lecture. Je vais en lire qu'un extrait, qui est la liste des entreprises qui, d'une manière ou d'une autre, de près ou de loin, participent à cette industrie de l'armement. Je vais juste prendre le premier exemple, c'est l'entreprise AAA, pour assistance aéronautique et aérospatiale. Alors à chaque fois, on a les adresses, hein, si vous voulez leur dire bonjour. C'est dans la zone Green Park, entre le 4 et le 57 de l'avenue Jean Monnet, 31770 à Colomiers. Et on apprend que cette usine AAA est fabricante de sous-ensembles d'avions et de bateaux. Chantier avions de point, finition, réparation, transformation, maintenance, aménagement, travaux de piste, mécanique, électricité, essai. Également, support technique et logistique. Pour le nautique, le ferroviaire, l'aéronautique civile et militaire, le C-130 ATL, le Rafale et le Mirage. L'AAA Military propose des prestations comme le reste du groupe, mais centrée plus particulièrement sur l'entretien des matériels, l'expertise technique, opérationnelle et les formations. À l'étranger, le département de défense effectue plusieurs chantiers militaires. Donc, des exemples comme ça, il y en a par ordre alphabétique une bonne centaine de pages. On voit qu'effectivement, ce sont des entreprises du privé qui, elles, ont vraiment un pied dans la fabrication, on va dire, de l'aéronautique civile, un pied dans l'aéronautique militaire, à un point tel qu'en fait on ne peut pas vraiment départager, c'est les mêmes savoir-faire, c'est parfois même les mêmes clients. Mais j'aimerais du coup qu'on reparle d'un autre type d'entreprise. On disait tout à l'heure, en 1918, on a encore des entreprises privées, la TECOR par exemple, et peu à peu qui vont s'intégrer, qui vont devenir un espèce de monstre de l'armement public. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ce passage-là? Comment est-ce que, par exemple, on va passer du ministère de la guerre au ministère de la guerre et de la défense, ministère de la défense, au jour d'aujourd'hui? Comment est-ce que le service public de l'armement va se mettre en place dans cette période-là?
Moi, j'avais... J'aurais aimé citer quatre petits exemples sur la dualité, revenir sur la dualité. J'avais un exemple, j'étais au lycée technique, j'apprenais la fonderie, et je faisais des petites pièces pour rigoler, comme ça, on faisait la fonderie, et en dessous de moi, j'avais une cuve de 5 mètres remplie de sable qui pouvait servir à fabriquer des canons. La Ariane Espace, qui nous est présentée comme le best du civil spatial, en fait, Ariane, la fusée Ariane, trimballe en permanence des satellites militaires. Alors, on n'en parle jamais. Je veux dire, ils sont en contrat avec la DGA, et je veux dire, ils balancent dans le ciel en permanence des satellites militaires. Météo France, qui nous paraît être une super entreprise, vous décortiquez Météo France en Toulouse, les deux tiers de leurs travaux sont des travaux qui touchent au militaire.
Voilà. Donc, tu veux dire par là que la plupart des boîtes qui sont en fait dans cette belle ville de Toulouse ont intégré cette dualité, c'est-à-dire que sous couvert d'activités civiles, il y a toujours un petit tripatouillage militaire, ou qui peut servir en tout cas à la cause militaire. C'est dans les gènes, quoi, en fait, de ces entreprises.
Oui, ça va dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on passe en permanence, on travaille pour le civil, on travaille pour le militaire. On fabrique Concorde va servir au Mirage F1, qui lui-même va resservir au supersonique, etc. Quoi. Il y a toute une technologie qui se mélange, et les ingénieurs, les étudiants, les gens qui bossent dedans n'arrivent pas à sentir. Il n'y a qu'un bout de piste qu'on arrive à savoir à peu près qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et le passage, pour revenir donc sur les nationalisations, c'est en 36, quoi, qu'il y a les nationalisations, et entre autres, voilà, en gros, toutes les boîtes d'armement sont nationalisées en 36, comme d'autres boîtes, je ne sais plus, EDF peut-être, etc. Voilà. Et on repasse après une privatisation dans les années 80, aujourd'hui. Il faut donc AZF, quand on explose à AZF, les gens ne voient pas qu'AZF travaille pour la guerre. AZF fabrique tous les produits de base qui ont servi après à la SNPE pour fabriquer tous les explosifs qui ont servi jusqu'à aujourd'hui, quoi. Ils ont fabriqué, AZF a fabriqué avec l'hydrogène, elle a fabriqué le deutérium qui est un élément pour réguler la fission nucléaire. Donc ils ont participé à la bombe, clairement. Et en fait, la population, là, ne le sait absolument pas. Pour elle, AZF, c'est les engrais et point, quoi. Et on se retrouve...
Tu avais des questions, non ? Non, c'était un complément, mais tu parlais donc de la partie carburant. Hein, donc, il y a les engrais et les carburants. Je crois que c'est anecdotique, mais ça avait un petit peu écorché l'image d'AZF. Il me semble même que lorsque les armées nazies prennent le contrôle de la zone sud, AZF produit aussi des gaz. Et il me semble même qu'une partie de cette production va donc être mise au service de l'armée occupante et va se retrouver à faire des...
Ouais, pendant la guerre, le souci des usines d'armement, ça a été l'approvisionnement en matières premières. Donc il y a eu une baisse de la production. Mais la production ne s'est jamais arrêtée, sauf pendant le bombardement des Américains. Mais sinon, la production a toujours eu lieu. Avant 42 et après 42, il y avait un transfert par des boîtes privées, il y avait un transfert de la production sur les usines, sur l'armée allemande, ça c'est clair. La reprise après la guerre, elle se fait en continu comme après la guerre de 14, c'est-à-dire on continue à produire de plus en plus d'engrais qui vont être aussi une arme de guerre, je pense, auprès des populations. C'est un truc qui sert de carotte complètement et va continuer à faire de l'armement. Et les gaz, entre autres les gaz, donc ils ont commencé à faire les gaz à partir de la guerre de 14. Une précision, c'est pas le phosgène, c'est pas le gaz moutarde, c'est l'hypérite qui est le gaz moutarde. Vous plantez depuis le début, là.
C'est bien que tu le précises. Voilà. Pourquoi tu participes pas au jeu? Ce serait vachement sympa.
Oui, je vous raconte.
Est-ce que le... Moi, j'ai une petite question, peut-être, ou tu voulais continuer encore
sur ça? Oui, une question, mais après, je continue.
Voilà. Est-ce que l'explosion de l'usine AZF, qui a entraîné sa fermeture, bon, même si on sait que la CNPE a redémarré ensuite sous certaines conditions, est-ce que ça a mis un coup d'arrêt à cette industrie de guerre un petit peu, mais camouflée, enfin, à l'ensemble des autres boîtes? Est-ce que, du coup, ça a mis un petit grain de sable, ou est-ce que ça a continué de se développer, et c'est devenu même encore plus vicieux en essayant de prendre des petits chemins de traverse pour faire un peu plus de chimie fine, par exemple, de choses comme ça?
Alors, moi, je me pose beaucoup de questions, évidemment, sur pourquoi cette explosion. Et de fait, je regarde ce qui se passe après. On se retrouve qu'on a, en gros, abandonné une industrie lourde, de chimie lourde, qui devenait de plus en plus obsolète pour la fabrication des armes, quoi, en gros. Sauf pour la fabrication du perchlorate d'ammonium, qui sert... en gros, à balancer les missiles ou la fusée Ariane, qui, je répète, n'est pas une fusée que civile. Donc il y avait effectivement, AZF servait à ça, mais le perchlorate d'ammonium aujourd'hui peut arriver d'autres boîtes, et c'est toujours la SNPE, aujourd'hui ça s'appelle Héraclès Safran, qui fabrique ce perchlorate. Elle fabrique pas que le perchlorate, elle fabrique de l'hydrazine, elle fabrique d'autres produits, moi j'ai plus le terme, qui servent toujours pareil, ce sont des molécules particulières qui servent pour booster les boosters de fusées, justement. Et le gros changement aujourd'hui au niveau de la production, c'est qu'on passe dans une, effectivement, une chimie fine qui sous-entend qu'on va travailler sur de la biotechnologie de synthèse, des nanotechnologies et sur de la médecine du cerveau pour travailler sur l'homme augmenté, c'est-à-dire que le travailleur augmenté qui sera bardé de technologie, et le soldat augmenté qui sera bardé de technologie. Et Toulouse est en pointe aussi là-dessus. N'oublions pas qu'en parallèle des industries, il y a toute la recherche. Toulouse est un très gros pôle de recherche, avec 150 000 étudiants, je crois, dans le coin, et des quantités de labos qui travaillent directement pour la guerre. On peut citer le LAS, etc., quoi, qui sont vraiment des labos, des vieux labos qui travaillent pour la guerre. En parallèle aussi, la guerre a pris une autre forme, c'est plus le fer et tout ça, mais aujourd'hui c'est l'électronique, et on va passer à une autre phase bientôt, mais toute cette électronique et l'éthique, les technologies information, communication, tout ça c'est Airbus, c'est-à-dire que ce sont de l'innovation, de la haute technologie pour fabriquer missiles, satellites, etc. Donc on se retrouve, la part d'explosifs, aujourd'hui, on l'a quitté, mais on est passé aujourd'hui donc à une technologie guerrière qui est beaucoup plus fine et qui est développée en très grosse quantité ici.
Tu parlais de la recherche, là, en expliquant que beaucoup de labos travaillaient plus ou moins directement pour la guerre. On imagine qu'un petit peu comme pour ces entreprises, il y a une certaine dualité. Ça serait quoi les secteurs particulièrement qui travaillent le plus? Je dis ça, il y a peut-être des étudiants, des étudiantes
intéressés pour savoir. On a quoi comme gros pourvoyeur de technologie pour les militaires
sur une ville de... Un étudiant.
Ouais, comme labo.
Il y a l'ONERA, mm-hmm. le LAS, le CERMAC, le CEMAS, pôle de recherche sur les matériaux avancés. Il y en a la liste, vous reprenez le bouquin, il y a une liste incroyable de gens qui bossent pour la guerre. Il y a les industriels, il y a les scientifiques, mais il y a aussi toutes les associations diverses. C'est-à-dire que Toulouse est bardée d'une centaine d'associations diverses qui va faire la promotion plus ou moins cachée pour le spatial, pour la chimie fine, etc. Quoi. Pareil, je ne vais pas citer les trucs, mais il y en a...
On le rappelle parce que c'est vrai que c'est toujours intéressant d'essayer de dénouer ça. C'est vrai qu'on a l'impression que les gens se rachètent. La mode est au... Même les aéroports, maintenant, demain, vont être ouverts. On a l'impression que des gens qui travaillent pour le laser, pour les fusées, les matériaux de propulsion des fusées, en permanence, mettent en avant des activités civiles. Et c'est toujours intéressant de rappeler que ces spécialités locales trempent aussi dans les salles eaux des conflits... Et évidemment, pas que dans la région, on renvoie au sous-titre, hein, désastre global. Évidemment, toutes ces armes-là servent largement à alimenter le statut cocorico, le statut français, selon les chiffres, troisième ou quatrième place en termes d'exportation d'armes. On ne parle pas d'un petit... c'est pas un truc cosmétique, c'est une industrie massive. Ce n'était pas du tout le cas à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. On avait une industrie, évidemment, il y avait eu l'occupation, il y avait eu des bombardements, une industrie qui était affaiblie, qui s'est donc complètement reconstruite par le secteur privé, jusqu'à aujourd'hui arriver à des secteurs de pointe dans pratiquement tous les domaines. Je ne sais pas si c'est un truc sur lequel tu as envie de rebondir. Ben,
L'INSEE fait régulièrement des états des lieux de l'industrie à Midi-Pyrénées. Et ils disent clairement, aujourd'hui, les boîtes qui marchent sont les boîtes qui font 25% d'armement. Voilà, c'est texto dans leur texte. Donc c'est Safran, c'est Thales, c'est Airbus, Nexter.
Tricatel, Alcatel.
Alcatel, Astrium, voilà, qui est Airbus aussi, mais voilà. Donc...
Et d'ailleurs, il me semble que ces mêmes chiffres de l'INSEE montraient qu'en fait, il y avait même plus... Lorsque, pour les 8% d'entreprises qui étaient au-delà des 25% pour le militaire, on avait carrément des chiffres. C'est des gens qui bénéficiaient à plein des exportations. On sait que là, ça y est, on a enfin réussi à vendre... Enfin, l'industrie d'armement a enfin réussi à fourguer ses rafales. On a des entreprises qui s'en sortent très bien. Et quelque part, plus la part dédiée au secteur militaire est importante, plus ce sont des boîtes qui fonctionnent, évidemment. C'est pas la crise pour tout le monde. Et tu le rappelais, il y a plus de conflits en Europe, à part dans les années 90 en Yougoslavie, mais il y a plus trop de conflits ouverts. Il n'empêche qu'évidemment, on inonde le monde, particulièrement en Inde et dans le Golfe Persique, mais pas que. On inonde le monde de ce savoir-faire made in France et notamment made in Toulouse.
Il y a un exemple, c'est la boîte qui s'appelle Amenis. Qui travaillent sur l'éthique, technologie, information, communication. Ils fournissent en 2007, ils fournissent un système d'écoute à Kadhafi. Et en fait, le système d'écoute va servir à fliquer tous les opposants et à arrêter, torturer, etc., toute la population. Ils ont été mis en procès par le droit de l'homme et tout ça. Alors donc ça, c'est une boîte toulousaine, quoi, qui n'a jamais été inquiétée. Hein.
D'accord. Et de la même manière, je crois qu'il y a moins d'un mois qu'on a exporté de Libye 500 tonnes de gaz chimique qui étaient stockées, craignant que les affreux de Daesh ne s'en emparent. Évidemment, ça posait moins de grands problèmes quand c'était l'industrie française qui les exportait, toujours pour Kadhafi ou pour d'autres. Très bien. Réaction, on écoute un nouveau son.
Non, moi ce que je voulais dire, c'était que... Quand on parle des industries d'armement et du CMI, du complexe militaro-industriel, on fait référence toujours à la guerre. Or, en fait, c'est pas un des endroits où il est le plus dangereux. Effectivement, il y a son lot de bombardements, de morts, de pollution et tout ça. Mais en fait, le complexe militaire-industriel, là où il est dangereux, c'est un fonctionnement normal. C'est un peu comme les centrales nucléaires, quoi. Centrales nucléaires, on a des accidents, mais ensuite, on a d'abord une production centralisée, et ensuite, on a surtout des rejets en permanence de radioactivité dans l'air, dans l'eau et tout ça. Et donc, nos doses de cancer de la thyroïde, etc., qui sont dues au fonctionnement normal des centrales nucléaires. Aujourd'hui, le complexe militaire-industriel a un fonctionnement normal, et dans son fonctionnement normal, ben, il va couler trois sous-marins au fond de la mer de l'Oural. Ça veut dire que c'est une zone de milliers de kilomètres carrés inutilisable. Il va saturer en radioéléments le désert de Reagan en Algérie. Donc pareil, zone inutilisable. Il va aller piquer une île à tel endroit parce qu'il veut mettre des sous-marins. Donc il vire la population. Donc en fait, en fonctionnement, ce qu'il faut voir, c'est bien ça, c'est qu'en fonctionnement normal, le complexe militaro-industriel crée beaucoup d'aléas qui ne sont pas voyants, en fait.
Ouais. Peut-être quand même pour comprendre à quel point, qu'est-ce qui fait que cet industriel est autant passé sous silence localement, est-ce qu'on a des chiffres du nombre de personnes qui bénéficient, qui travaillent là-dedans, la question, comme pour la part des travailleurs du nucléaire, qui ne sont pas payés pareil hein, que les travailleurs de l'armement? On a l'impression que ça concerne beaucoup de monde, hein. Je renvoie encore à cette centaine de pages qui recense des entreprises. On a des données chiffrées.
Plusieurs milliers d'entreprises qui bossent, pas à Toulouse, sur toute la France, qui bossent pour l'armement. Il y en a 5000 qui sont considérées comme stratégiques. Voilà. Et c'est un programme qui, en gros, 165 000, les chiffres sont toujours pareils, c'est d'emplois directs. 20 000 emplois dans la recherche. Voilà. Ça veut dire, en gros, ça veut dire que c'est une population, si on compte les familles, c'est plusieurs millions de personnes qui vont voter directement pour les marchands d'armes à chaque élection. Quoi.
Et pour revenir sur les trucs de recherche, il me semble avoir trouvé dans l'ouvrage qu'il y a 450 thèses qui sont soutenues et financées par la Direction Générale de l'Armement. Donc là, on parle de financement direct, puisqu'évidemment, quand on est étudiant, étudiante à Paul Sabatier, en sandales, avec les cheveux longs, on n'a pas forcément envie de bosser directement pour des fabricants de bombes. Donc il y a des financements directs pour s'assurer que les enjeux militaires de cette grande nation industrielle sont sauvegardés.
À la fois, il y a un financement, mais à la fois, il y a une décision, parce que la DGA est au-dessus des thèses. C'est-à-dire qu'elle va dire « cette thèse m'intéresse et cette thèse ne m'intéresse pas ». C'est-à-dire que ce n'est pas que le financement, elle fait les choix directs de recherche qui passent ensuite, qui est utilisé. Alors là, c'est la dualité, hop, qui est fabriquée par, qui est étudiée par le secteur universitaire civil. Quoi.
Peut-être un petit point final, une dernière chose.
Parce un que point final, ouais, sur les chiffres de ce que ça représente, ces exportations de ces saloperies-là à travers le monde. On sait que ça fait quelques années que ça explose. J'ai cité la Rafale, mais il y a d'autres. Petits joujoux qui se vendent bien.
Il y a la 400M, il y a plein aussi de, effectivement, quoi, de petites joyeusetés comme ça qui sont vendues, qui ont un réel succès à l'étranger. Est-ce que tu retrouves les chiffres?
Non, juste, il y a des chiffres en 90 sur le CMI, le complexe militaro-industriel. C'est 3 600 000 personnes, 6% de la population qui vivent en France grâce à ce complexe.
Ce qui me semble que cette année, on a dépassé la barre. Alors, c'est toujours difficile d'évaluer ça parce que c'est des ventes virtuelles. Hein, on attend que les contrats soient rémunérés. Mais 16 milliards de ventes cette année. Et je crois que ça fait 2 ou 3 années d'affilée que ça double pratiquement chaque année. Voilà donc une industrie qui se porte bien.
Florissante.
Florissante. Ça sera... Le mot de la fin ?
Comme vous voulez. Ouais.
On trouve ça. Venez chercher au 36 rue Daniel Casanova, Toulouse Nécropole, spécialité locale pour désastres globales.
Qui est en vente à l'entrée de la chapelle. Dès que vous pénétrez dans le petit parc de la chapelle, vous tombez dessus. On va passer à de la musique live, toujours en direct de la chapelle, donc en direct sur les ondes de Canal Sud, mais également en live. Au 36 rue Daniel Casanova. Ils sont deux, ils ne sont pas de première jeunesse, ils ont quelques heures de vol, ils ont un réel succès dans les maisons de retraite, ils s'appellent Shotgun.
Donc, dans 20 minutes, on a un débat sur industrie et agriculture, la question de la chimie avec Régis Auchard et Cécile Auchard sur l'artificialisation des sols et le travail agricole, mais en attendant, on écoute donc
Shotgun.
5 janvier 1993, Île Shetland, industrie pétrolière. Le naufrage du Braer répand la totalité de ses 84 500 tonnes de pétrole en mer.
10 mai 1993, Samphan District, Thaïlande, industrie du jouet. L'incendie qui dévaste l'usine de jouets Kader Toy Factory tue 188 travailleuses. Les issues de secours avaient été fermées.
28 juin 1994, Lausanne, Suisse, industrie chimique. 3 wagons-citernes transportant du chlorure de thionyle et de l'épichlorhydrine déraillent.
15 février 1996, Milford Haven,
Pays de Galles, industrie pétrolière. Lors du naufrage du pétrolier Sea Empress, la moitié du contenu de ses cuves, soit 13 000 tonnes de pétrole brut, se répand en mer.
2 janvier 1997, Honshu, Japon, industrie pétrolière. Le naufrage du pétrolier russe Nakhodka répand en mer 19 000 tonnes de pétrole brut.